Seigneur, nous voulons te demander vraiment que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Nous savons que tu nous aimes tous tels que nous sommes et que tu veux nous bénir tous et que tu veux que nous repartions d'ici avec tout ce que tu nous as promis au début du camp dans cette bénédiction sacerdotale que tu as enseignée à Moïse pour qu'Aaron dise cela aux fils d'Israël. L'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Nous sommes assurés que nous pourrons repartir avec cette paix dans le cœur et cette vie nouvelle que tu as promise à ceux qui veulent bien l'accepter. Donne-nous des cœurs d'enfants qui acceptent ta parole, qui que nous soyons, pour la gloire et l'honneur de Jésus, et pour qu'au jour où nous devrons comparaître devant Dieu, nous puissions être accueillis et reçus dans son amour. Amen. Donc, mes amis, vous aviez à lire et à méditer le dernier chapitre de cet épître aux Corinthiens, qui est donc la deuxième lettre que l'apôtre Paul envoyait à ces païens, ces juifs qui s'étaient convertis à la prédication de l'Évangile qui leur avait été annoncé par Paul d'abord et ses compagnons. Alors, à la fin du 12e chapitre que nous avons étudié hier et que vous avez encore en mémoire, nous avons entendu l'apôtre Paul affirmer une nouvelle fois que c'était vraiment devant Dieu et en Christ qu'il leur parlait. Il prenait à témoin que Dieu était là, son premier auditeur, qui contrôlait ce qu'il disait. De sorte que il ne proclamait pas dans cette lettre ses propres pensées, mais il était la bouche de Dieu pour les avertir. Donc, tout ce que Paul leur disait était pour leur bien suprême, parce que Dieu ne peut pas nous dire quelque chose pour notre mal. S'il nous avertit comme un père avertit son enfant, eh bien, nous pouvons croire que si nous recevons aujourd'hui les enseignements de l'Écriture, nous serons bénis. C'est toujours pour le bien de notre âme, même si cela peut nous faire un peu mal. Quand tout à coup on voit que ce livre nous découvre et nous montre au fond réellement ce que nous sommes. Il ne cherchait pas donc l'apôtre Paul à se faire aimer d'eux. Il le dit, hein. Je n'essaye pas de me faire aimer de vous. Ce ne serait pas ce que Dieu voudrait. Mais je vous aime assez pour vous reprendre afin que quand je viendrai chez vous et que je verrai votre état sur place, eh bien, je vous trouve vraiment marchant dans la vérité. Cette vérité qui a été exprimée dans la vie de Jésus, qui lui-même disait « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Les gens aujourd'hui prétendent qu'ils ont chacun leur vérité. Et vous voyez où cela mène. Quand chacun a sa vérité, eh bien, c'est la corruption, c'est le désordre, c'est l'injustice. Jésus est la vérité, l'expression même de la pensée du Dieu invisible auquel nous croyons et qu'il nous a révélé. Et en pensant à ce que Paul pourrait trouver dans cette ville de Corinthe, dans cette première église qu'il avait fondée, eh bien, il frémit parce qu'il se dit, mais si j'y trouve encore les mêmes mœurs qu'autrefois, quand j'y suis allé la première fois, qu'est-ce qu'il y avait trouvé là? Eh bien, les œuvres de la chair. Et le catalogue des œuvres de la chair, pour qu'on puisse voir ce que c'est que ces œuvres de la chair, ce que nous sommes capables d'accomplir par notre nature que nous avons reçue à notre naissance, Eh bien, je vous lirai dans Galates, pour que vous ayez ce catalogue des œuvres de la chair. Au verset 19 du chapitre 5 des Galates, Paul dit, les œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que peut produire la chair, notre nature, elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Puis il ajoute, je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, donc quand il leur prêchait, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point du royaume de Dieu. Donc, il les a bien investis. Mais en contraste avec ces œuvres de la chair, il parle de ce que peut produire le fruit de l'esprit quand on laisse le Saint-Esprit vraiment nous saisir et nous habiter. Alors, qu'est-ce qu'il produit, le fruit de l'esprit, en contraste avec les œuvres de la chair? Le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le contraste. Mais Paul avait donc prêché l'évangile à des gens qui vivaient tout à fait dans leur propre désir, qui suivaient leur désir, et il a peur maintenant que quand il retournera chez eux, il en trouve beaucoup qui auront repris leur vie dissolue. Et qu'il se manifeste, c'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 12 que vous avez lu, verset 21, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté et de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Et juste avant, il nomme les querelles qu'il pourrait trouver, la jalousie, les animosités, les cabales, les médisances, les calomnies, l'orgueil, des troubles. Et quand il pense à cela, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les juge? Non, il pleure. Mais c'est pas possible. Et il dit qu'il pleure déjà sur plusieurs. Il souffre en pensant à ceux qui avaient péché ainsi avant leur conversion et qui ne s'étaient pas repentis de cette vie dissolue qu'ils avaient pu mener avant d'entendre l'évangile qui devait captiver leurs pensées. Alors, va-t-il les laisser dans cet état? Est-ce qu'il va dire, ben voilà, je vous avais averti maintenant, puisque vous continuez, je vous laisse, je vous abandonne? Non. Comme l'apôtre Pierre, qui ne dit pas autre chose, dans le chapitre 4 de sa première lettre, Pierre, l'apôtre, dit ceci. Le Christ a souffert dans la chair. Eh bien, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, parce que bon, pour les hommes, c'est normal de vivre cette vie-là, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Voilà, il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps pour vivre dans la chair, on est toujours dans un corps de chair, mais il ne nous reste que peu de temps pour vivre dans cette chair. Bien, on ne veut pas vivre comme autrefois. Et il dit, vous voyez, verset 3, vous voyez que Paul et Pierre, vous ne pouvez pas les opposer. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé, dans ce hier dont nous avons parlé, hein, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Que les païens fassent ça, c'est tout à fait naturel. Hein. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Et alors, évidemment, ces Corinthiens s'étant convertis, s'étant détournés de ces choses, eh bien, avaient été incompris de leurs anciens amis. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient, mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Parce qu'on peut continuer jusqu'à la mort, cette vie-là. Mais croyez-le, on aura des comptes à rendre. C'est ce que nous avons lu hier soir. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. C'est pas parce que Dieu nous laisse vivre dans ces choses-là et qui sont pour lui abominables et qui mènent le monde à la ruine et qui donnent un exemple à toute notre jeunesse qui se dévoie et qui, après avoir tout goûté avant leurs 20 années, en arrive à l'idée du suicide parce que tout cela, au fond, ne leur a rien donné. Ce qu'on appelle les délices du péché, eh bien, qu'est-ce que cela leur a apporté? Le désespoir. Et c'est bien ce que Satan voudrait mettre dans le cœur. Quand il nous a fait connaître toutes les séductions, eh bien après il nous dit, mais maintenant t'es trop mauvais, crève. Eh bien non, c'est pas ça. Alors Paul ne va pas les laisser dans cet état, non. Il se propose, comme vous l'avez vu, d'aller les voir une troisième fois. Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Peut-être qu'il parlera une troisième fois. Eh bien, que Dieu, aujourd'hui, dans ce dernier jour que nous passons ensemble, veuille vraiment nous parler. Mais Paul les avertit en les appelant encore, malgré ce qu'il sait d'eux, et que beaucoup sont retombés, vous savez comment il les appelle? Bien-aimés. Il les appelle encore bien-aimés. Il n'a pas perdu tout espoir. Ils ont pu retomber. Mais il leur dit bien, je vais encore une troisième fois. Mais il leur dit qu'il agira avec fermeté. Il leur dira, oh ben vous savez, c'est tout à fait compréhensible, la chair étant la chair est faible. Non, ils n'ont pas d'excuses. Et voyez-le, et croyez-le, nous n'avons pas d'excuses pour continuer à vivre de cette manière. Parce qu'il y a une force qui peut être la vôtre, qui peut devenir la vôtre. Elle n'est pas de vous, elle n'est pas en vous, mais vous pouvez la recevoir. Elle est dans le Christ. Croyez-y ou n'y croyez pas, eh bien, c'est là qu'est le grand secret. Est-ce que vous voulez que le Christ devienne réellement dans votre vie votre force toute puissante? Des hommes, comme on a parlé d'Augustin ce matin, il a accepté de revêtir le Christ et non plus c'est de continuer avec ses vieux habits, ses vieilles habitudes qui étaient pourtant bien ancrées en lui. Alors, Paul donc les avertit, j'irai, mais j'agirai vraiment avec fermeté. Et ceux qui, à Corinthe, ont mis en doute l'autorité apostolique qu'avait Paul, parce que Paul ne parlait pas de lui-même, Paul avait été appelé par Dieu. Il était autrefois un homme violent, il était un homme qui avait fait bien des choses mauvaises, mais il avait été saisi par Dieu. Et son autorité, c'est que sa vie était transformée. Tout le monde le savait. On connaissait son passé, c'était clair. Et si vous lisez les actes trois fois, il raconte ce qui lui est arrivé. Sa conversion au Christ et ce que le Christ a pu faire dans sa vie parce qu'il s'est laissé faire. Or, justement, Saul de Tarse était un orgueilleux et admettre qu'on va se laisser faire. Mais se laisser faire par qui? Parce que ou bien on se laisse faire par le diable, ou bien on se laisse faire par le Seigneur. Et si on se laisse faire par le diable, eh bien on accomplit les œuvres du diable. Si on se laisse faire par le Seigneur, lui accomplira en nous les œuvres de Dieu. Et c'est cela qui est merveilleux. Mais il faut un choix. Est-ce que vous voulez rester sous la domination du prince de ce monde, ou bien est-ce que vous voulez accepter la domination du Dieu vivant, qui est en dernier ressort le maître? Alors, ceux qui, à Corinthe, ont mis en doute l'autorité apostolique de Paul, verront quand Paul viendra qu'il saura rétablir l'ordre et la justice dans cette communauté où Satan voudrait séduire des âmes qui sont précieuses. Les âmes sont précieuses. Et voyez-vous, Jésus lui-même, la nuit où il fut livré, et c'est une de nos méditations du soir, a averti l'apôtre Pierre, qui était pourtant un disciple, qui s'était engagé pour le Christ et qui avait confessé Jésus comme son Seigneur, il lui a averti qu'il ne devait pas mettre sa confiance en lui-même, en ses propres forces, parce que cette nuit-même, il serait capable de le renier, de retomber. Et Pierre avait dit, c'est pas possible, Seigneur. Moi, je te suivrai partout où tu iras, j'endurerai n'importe quelle souffrance, j'irai même en prison pour toi. Puis Jésus lui dit, tu iras en prison pour moi? Avant que le coq ait chanté, aujourd'hui tu m'auras déjà renié trois fois. Et je voudrais bien vous avertir que si vous continuez à vous penser plus fort que les autres et que par vous-même vous y arriverez, eh bien vous ferez cette expérience absolument terrifiante que dans la même journée, on est capable de dire « je ne connais pas cet homme ». À trois reprises et avec des imprécations, Pierre a renié son maître. C'est pourquoi Pierre plus tard dit « vous savez, tenez ferme hein ». Parce qu'il a fait ses expériences. Il dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Chapitre 5 de la première lettre de Pierre. Le diable rôde. Pierre, maintenant, il le sait parce que, alors qu'il suivait Jésus de loin, quand Jésus fut arrêté, il a fait cette expérience que Satan rôdait autour de lui, comme un lion, verset 8 du chapitre 5, la deuxième épître de Pierre, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Alors qu'est-ce qu'il dit? Résistez-lui. C'est pas le diable qui sera le plus fort. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et l'apôtre Jacques disait aussi de résister à Satan et que lui-même s'enfuirait de nous. Il n'y a pas besoin d'exorcisme. Résister au diable et il s'enfuira de vous. Sachez lui dire non, mais vous ne pourrez lui dire non qu'avec la force du Seigneur. Vous ne pourrez lui dire non que si vous avez dit votre oui à qui? Au Seigneur. C'est ça dont il est question. Voulez-vous dire votre oui au Seigneur, comme l'a dit Marie, la mère bénie de notre Seigneur? Elle a dit oui, qu'elle s'est laissée faire, malgré tous les risques qu'elle courait. Que Dieu fasse en moi ce qu'il veut. Et c'est elle qui est devenue la mère de notre Seigneur. Alors, Paul annonce qu'à son arrivée, toute affaire sera réglée sur la disposition de deux ou trois témoins. Et là, je voudrais souligner, là au verset 1, qu'en cela, Paul suivait exactement l'enseignement du Christ au sujet de la discipline qui doit se manifester dans l'Église. On va d'abord trouver la personne qui marche mal, qui n'est pas un exemple. On l'avertit en particulier. L'amour couvre une multitude de péchés. On ne va pas raconter les choses. On lui parle, on l'avertit. Et on lui montre qu'elle s'est laissée détourner du vrai chemin. Si cette personne ne veut pas écouter le conseil d'amour qu'on lui donne, parce qu'on l'aime, eh bien, alors seulement, vous prenez un autre témoin. Et puis, si elle ne veut pas écouter les deux, finalement, eh bien, vous le dites à la communauté entière, et c'est la communauté qui prend la décision de l'exclusion. Et en cela, vous pouvez lire, parce que plusieurs m'ont dit, mais au fond, est-ce qu'on ne perd pas son temps en lisant l'Ancien Testament? Vous verrez que tout cela, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous cite les textes. Nombre, chapitre 35. Parce que une seule personne ne suffisait pas pour faire condamner quelqu'un. Parce qu'on peut nous calomnier, on peut dire toutes espèces de choses sur nous. Vous savez bien ce qui se passe. Et puis on peut même avoir des faux témoins. Alors, Paul suit à la lettre ce que Moïse a écrit, car Jésus avait dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir, pour l'accomplir. Alors, Nombre 35, verset 30e, il est dit ceci. Si un homme tue quelqu'un, alors voilà pour le crime. On ôtera la vie au meurtrier, mais sur la déposition de témoins. Parce que le péché, quel qu'il soit, la transgression d'un des commandements, était toujours puni de mort. Hein. Nous, on fait une espèce de gradation, les péchés véniels, les péchés mortels, les péchés capitaux. Le péché, c'est le péché. Eh bien, mais on ne pouvait pas exécuter quelqu'un sur la déposition d'un seul témoin. Un seul témoin, était-il écrit, ne suffira pas pour faire condamner une personne à la mort. Voilà un des textes. Prenez maintenant dans le Deutéronome, au chapitre 17e, pour que vous voyez comme Paul suit exactement ce qu'a enseigné la parole, et cette parole est toujours vraie. Il ne faut pas condamner sur le témoignage d'un seul témoin. Chapitre 19 du Deutéronome, verset 14e. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Et après, bon, vous pouvez continuer vous-même cette étude, et au chapitre 17e, ça j'ai dit au chapitre 19e, hein, 14 à 21. Alors, chapitre 17, verset 6, vous avez encore un texte. Verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Voilà. Donc, dans ce que nous avons lu, l'apôtre dit au verset 1er que il examinera toutes choses, mais sur la disposition de deux ou trois témoins. Il fait donc référence à la loi de Moïse. Et au verset 2, Paul souligne qu'il les avait déjà avertis quand il était chez eux pour la seconde fois, et aujourd'hui, même absent, bien, il leur confirme qu'il n'usera pas de ménagement à l'égard de ceux qui vivent dans le péché. Parce que, vous savez, comme il le dit, comme le disait Jésus, un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein. Alors, il fallait retrancher le mal. Verset 3. Puisque les Corinthiens recherchaient une preuve que le Christ parlait en lui, eh bien, ils verront que le Christ en lui n'est pas faible, hein, mais puissant parmi eux. Et cela, c'est très frappant. Se donner au Christ, on dit, mais qu'est-ce que ce sera alors? C'est admettre la faiblesse. Non. Quand on se donne au Christ, le Christ ne nous fait pas devenir faible, mais fort pour lui. Fort pour lui. Et c'est ça qui est fantastique. Et il montre au verset 4 que certes, le Christ a été crucifié, alors on dit, il n'a pas pu s'en sortir. Vous voyez ce que c'est, hein, qu'être faible. Alors, ils avaient cette idée. Le Christ était faible puisqu'il s'est fait crucifier. Il a été crucifié, dit Paul, oui, c'est vrai, à cause de cette faiblesse. Mais cette faiblesse, il y avait consenti, il avait revêtu un corps de chair. Justement, pour pouvoir mourir. Ainsi, les hommes, parce que Jésus était dans un corps de chair, semblable à celle du péché, mais sans péché, les hommes avaient pu le faire mourir. Mais la puissance de Dieu s'était manifestée au sein de cette faiblesse même. Qu'est-ce qui était arrivé à Jésus après sa mort? Il était ressuscité. Il était sorti du tombeau. La puissance de Dieu s'était manifestée en lui. Apparemment, à la croix, eh bien, vous voyez la faiblesse de Jésus, parce qu'il a revêtu un corps de chair. Il a été crucifié, dit l'apôtre, là, en faiblesse, à cause de sa faiblesse de la chair, mais il vit par la puissance de Dieu. Bien, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Oui, Paul peut dire, de même que Jésus a pu paraître faible, mais qu'il est pourtant le Tout-Puissant, en apparence j'ai pu vous paraître faible, écrit-il aux Corinthiens, mais il verrait, quand il viendrait les visiter, la puissance de Dieu. Et vous savez, du Christ, il est dit la même chose. La première fois qu'il est venu, en faiblesse. Mais quand il reviendra, parce que le Christ qui a été crucifié, mais qui est ressuscité, reviendra, mais il reviendra avec puissance. Et alors il est dit que là, à ce moment-là, tous les hommes seront stupéfaits. Comment? C'est le même Jésus? Oui. Mais qui revient en gloire pour établir son règne et juger ceux qui ont méprisé sa grâce. Aujourd'hui, en Jésus, vous avez le pardon de tous vos péchés, quels qu'ils soient. Mais si vous refusez cette grâce, si vous refusez ce pardon, ben qu'est-ce qu'il y a quand on refuse la grâce? Il n'y a plus que l'exécution. Au jour de la grâce, à l'aujourd'hui de Dieu qui est un jour de grâce, succédera le jour de la vengeance de notre Dieu. Ne vous y trompez pas, hein. Vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu n'extermine pas ceux-ci ou ceux-là, ils font tellement de mal? Pourquoi? Parce qu'il voudrait leur donner la possibilité de changer. C'est pas parce que Dieu approuve qu'il les fait. Mais moi j'ai fait tout cela, puis je suis pas mort. Bon. Il y en a qui disent, eh bien oui, ben, il y en a qui meurent du cancer des fumeurs, mais il y en a qui arrivent à 80 ans et puis qui ont fumé et qui fument encore. Et puis ils sont encore là. Dieu leur donne un temps de grâce. L'exécution ne tombe pas sur nous parce que maintenant c'est la grâce encore. Alors Dieu use de grâce envers tous. Mais faites attention, le temps de la patience touche à sa fin. Et alors, Paul dit, eh bien, vous verrez, je vous manifesterai aussi que le Christ en moi est puissant. Mais cette puissance, c'est pour leur salut, elle doit être employée pour leur salut. Et il leur rappelle que l'évangile qu'il leur a annoncé a été puissant en eux. Ils étaient plongés dans toutes ces souillures, et pourtant, ils ont connu un temps où ils en ont été délivrés plusieurs. Mais voilà, ils se sont relâchés, et ils sont retombés, mais pourtant ils ont connu ce premier temps où la puissance de Dieu agissait en eux, où on peut dire qu'ils étaient dans le premier amour et que l'évangile avait été pour eux la puissance de Dieu. Paul n'avait pas voulu qu'ils croient à l'évangile parce qu'il avait fait des miracles. Il s'était refusé de faire des miracles. Parce qu'il ne voulait pas que la foi des Corinthiens repose sur quelque chose de spectaculaire. Et il avait refusé de leur parler avec une immense sagesse pour les convaincre, des arguments de la raison humaine. Il leur avait présenté simplement Jésus-Christ crucifié. La foi au Christ crucifié. Mais c'est une folie, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'un crucifié peut bien faire pour moi ? Eh bien, c'était justement cette folie, ce scandale, qui avait été la puissance de Dieu qui les avait arrachés à cette vie qu'ils menaient loin de Dieu. Donc, ils savaient que dans l'Évangile, dans le Christ crucifié, il y avait une puissance. Et si les Corinthiens, verset 5, recherchent maintenant une preuve que le Christ parle en lui, eh bien, qu'ils s'examinent eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi, si le Christ est en eux. Qu'est-ce qu'il leur a prêché ? Que le Christ était la puissance de Dieu. Eh bien, eux peuvent maintenant savoir si vraiment le Christ est en Paul. Qu'est-ce qu'il leur a apporté ? Et ce qu'il veut leur dire, c'est est-ce que vous vous sentez approuvé par la force du Christ en vous, ou bien est-ce que vous vous sentez réprouvé, sans aucun témoignage du Saint-Esprit? Parce que Paul ne veut pas qu'il vive dans une fausse sécurité. Oh, mais moi, j'ai accepté un jour Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Et puis, on m'a bien dit que quand Jésus est mort, je n'étais pas encore né, donc c'est pour les péchés de toute ma vie qu'il est mort. Alors, j'accepte que Jésus-Christ soit mort pour mes péchés, puis je continue de pécher. C'est couvert. Hein? Puis ça finira quand même bien. Mais il n'y a pas de changement de vie. C'est couvert. Mais Paul le dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que vous ayez compris cela comme cela. Je ne vous ai jamais prêché cela. Je vous ai montré un Christ qui nous délivrait non seulement de la peine du péché, mais qui nous délivre de la puissance du péché. Voilà ce que je vous ai prêché. C'est pas parce qu'il veut les faire douter de leur salut qu'il leur dit ça, mais il dit, est-ce que vraiment vous pouvez dire que dans votre esprit, dans votre cœur, en vivant de nouveau dans une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, est-ce que vous vous sentez approuvé de Dieu? Ou bien est-ce que vous ne vous sentez pas plutôt réprouvé? Et Paul espère que les Corinthiens reconnaîtront que lui, Paul, qui les a évangélisés, et ses compagnons ne sont pas des réprouvés, hein, mais que Christ est vraiment en eux. Puisque je trouve tellement beau verset 7, l'apôtre prie que ses frères, en se jugeant eux-mêmes, évitent tout ce qui est mal, non pour que la gloire en revienne à Paul, et que par là il paraisse lui approuvé, c'est pas de ça qu'il est question, mais il veut que ce soit le bien qui soit manifesté, le salut des âmes. Même si lui, quand il irait à Corinthe, sans avoir besoin d'user de son autorité apostolique, eh bien, même si on le trouve de nouveau faible, parce qu'il ne juge pas, mais c'est pas ça qu'il voudrait, je ne voudrais pas venir pour user de mon autorité apostolique. Enfin, même si vous me trouvez faible, eh bien, ça ne me fait rien, même si vous me trouvez vraiment dans les infirmités que vous connaissez, et qu'on lui reprochait, ça ne me fait rien. Et il dit même, il va plus loin, même si vous pouviez me trouver, moi, réprouvé, mais que vous soyez approuvé de Dieu, bien j'en serais heureux. Moi, à ce moment-là, je trouve que c'est magnifique. C'est un homme qui dit, si moi, je devais être perdu, et que vous soyez sauvé, ben j'en serais heureux. Hein? C'est pas un bonhomme qui dit, ben, moi, pourvu que je sois sauvé, puis vous, ben, arrangez-vous. Hein? Non. Il dit, moi, j'aimerais mieux savoir que vous êtes sauvé, et moi damné, que de vous savoir damné, et moi sauvé. Qui est-ce qui a dit cela dans l'Ancien Testament? Moïse. Et c'est ça, hein, le vrai salut. Le vrai salut, c'est pas dire, moi je suis un sauvé, hein, puis vous autres, vous êtes des perdus. C'est pas ça. S'il le fallait, je vous aime assez, dit Paul, pour être perdu, afin que vous soyez sauvés. Ça m'a fait penser, mais je ne vais pas vous raconter ça, de l'entretien que j'ai eu avec un géomètre à Haïfa, géomètre de la ville de Haïfa en Israël, et qui a été bouleversé justement parce qu'il me disait que c'était à cause de Paul que les Juifs étaient malheureux, etc., que toute la faute revenait sur l'apôtre Paul, qu'il n'avait pas aimé les Juifs. Et lui était juif. Hein. Alors je lui ai dit, vous n'avez jamais lu le chapitre 9 de l'Épître aux Romains? Il dit, non. J'ai lu ça chez un philosophe allemand. Alors, j'ai dit, bien, vous me permettez de vous donner à lire le chapitre 9 de l'Épître aux Romains? Puis il me dit, mais je n'ai pas besoin d'une Bible, j'en ai une. Il va chercher sa Bible dans la bibliothèque. Donc tout le monde, il avait fait une grande invitation des personnalités de Haïfa ce soir-là. Et puis, alors il a lu à haute voix. Et c'était très drôle d'entendre un athée juif lire à haute voix la Bible. Est-ce que la Bible peut faire? Paul dit dans le chapitre 9, je vais quand même vous le citer. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, les Israélites. Comme Moïse dit, quand Dieu lui dit, ben moi j'en ai assez de ce peuple rebelle d'Israël, je m'en vais les exterminer tous, puis je ferai de toi une grande nation. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Oh non Seigneur, efface-moi plutôt de ton livre. Ça, hein, ça c'est la vraie foi. Efface-moi plutôt de ton livre, moi je ne peux pas admettre ça. Je supporterai encore toutes les souffrances. Bien voilà, dans quel esprit ce Saul de Tarse doit user de sévérité pour ses Corinthiens. Vous voyez, cette humilité. Mais évidemment, les Corinthiens savaient très bien que Paul ne pouvait pas être perdu. Ce n'est pas une chose qui peut arriver, ça. Qui est-ce qui a été perdu pour que nous soyons sauvés? Il n'y en a qu'un. Il n'y a que Jésus, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est bon que nous ayons ces sentiments qui étaient dans le cœur de Paul. Puis ensuite, verset 8, c'est un verset que vous pouvez souligner pour vous. Il dit qu'on ne peut rien contre la vérité, mais pour la vérité. Ben, évidemment, je ne veux pas prendre cela à la lettre qu'on ne peut rien contre la vérité. Il y en a beaucoup qui font des choses contre la vérité, et c'est mal. Mais en définitive, tôt ou tard, les choses se trouvent. Vous pouvez être contre la vérité pendant un temps, mais on ne peut rien contre la vérité, finalement. C'est un combat perdu à l'avance. vous pouvez avoir quelques victoires, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Et vous ne pouvez rien contre la vérité. Dans la guerre de 39 à 40, à 45, il semblait à un moment donné que Hitler allait avoir la victoire totale, introduire cette nouvelle ère. Non, mais il n'a pas eu la victoire. Il a eu des victoires, soi-disant. Il n'a pas eu la victoire. On ne peut rien contre la vérité, mais pour la vérité. La vérité, ben, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est vrai selon Dieu. Et tôt ou tard, cette vérité triomphe. La vérité, si je peux m'exprimer ainsi, c'est réellement la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Voulez-vous connaître la vérité? Pilate disait à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce que Jésus lui disait, devant ce juge romain, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Il dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Bien, la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Mais alors, où est-elle cette pensée de Dieu? Comment peut-on connaître la pensée de Dieu? La pensée de Dieu nous a été révélée dans la Bible, dans ce livre, dans cette parole. Alors, si vous voulez savoir ce que Dieu pense, vous devez prendre connaissance de la Bible. Pourquoi est-ce qu'on met entre vos mains des Bibles? C'est pour que vous ne soyez pas convaincus par nos idées, mais que, recherchant dans l'Écriture, vous vous dites, ben, oui, c'est pas cet homme-là qui a dit cela, mais c'est le Christ, si vous lisez l'Évangile, ce sont ses apôtres, et si vous lisez les Épîtres, et puis même, eh bien, c'est tout l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes et les psalmistes d'Israël qui ont exprimé cette vérité. Alors, au verset 9, vous voyez que la joie de Paul serait de paraître parmi eux dans la faiblesse même, pour qu'eux soient forts et perfectionnés dans la vie chrétienne. Son désir en leur écrivant ces choses, en étant absent, c'est qu'il n'ait pas besoin d'user de sévérité quand il sera près d'eux. Il n'est pas comme Jonas, hein. Jonas, lui, il est allé à Ninive par ordre du Seigneur. Puis il a dit aux Ninivites, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Pour quelle raison? À cause de ses péchés. Hein. Il y a un moment donné où la coupe déborde. C'était comme pour Sodome et Gomorre. On a pu faire ce qu'on voulait dans ces villes de la plaine où l'impudicité était arrivée à son comble. Mais un jour, eh bien c'est le jour du jugement. Alors, Jonas est envoyé à Ninive. Et vous connaissez son escapade, il veut pas aller témoigner, il prend un autre bateau, puis il va dans une autre direction. Puis c'est la tempête, il est jeté à la mer finalement, et il se retrouve quand même, par la grâce de Dieu, à Ninive. Alors il traverse la ville, puis il commence à dire, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et qu'est-ce qui se produit? Ben, il y a la repentance. Les gens de Ninive ont été saisis par le message de Jonas. Ils ont cru, Jonas, qu'ils avaient encore 40 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis. Et Jonas, il s'était construit une cabane sur la montagne pour voir ce qui arriverait au bout des 40 jours. Et pour justifier sa prédication. Et voilà que Dieu, quand il voit que ces gens de Ninive se repentent, il leur donne encore un siècle, parce que finalement Ninive a été détruite, mais il leur a donné encore 100 ans. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Je ne dis pas qu'il vous donnera encore 100 ans, hein. Mais il vous avertit que c'est l'heure de la repentance, hein, de la vraie repentance. Mais quand Jonas a vu que, au fond, sa prédication ne s'accomplissait pas, bien, il s'est dit, on va dire, il a voulu simplement nous effrayer. Non, c'était la parole de Dieu. Mais au lieu de se réjouir que Dieu leur fasse miséricorde, il pensait qu'à lui-même, à sa qualité de prophète. Bien, Paul n'est pas comme ça. Il dit, si même je dois venir et puis que je n'ai pas usé de mon autorité apostolique pour retrancher les méchants, ben ça me donnerait de la joie. Est-ce que vous vous réjouissez quand vous voyez vraiment les âmes se tourner vers le Seigneur. Est-ce que vous pensez, mais elles ne croiront pas à la parole? Oh non. Quand on a passé par l'abri repentance, bien on sait ce que c'est que la grâce. Alors verset 10. Il faut qu'il sache que rien ne pourra le détourner de la vérité qui est en Jésus, selon la puissance qu'il a reçue. Mais ce qu'il voudrait, c'est que cette puissance qu'il a reçue, pour mettre de l'ordre dans cette église, eh bien, il n'est pas à l'employer pour détruire les âmes, mais pour les édifier. Et maintenant, depuis le verset 11, alors, vous avez les dernières exhortations, c'est la conclusion de sa lettre. Verset 11, après les dernières exhortations de l'apôtre. Il les exhorte à quoi? Maintenant qu'il leur a dit, qu'il les a bien avertis, on reste frères. Il les appelle encore frères. C'est beau ça, c'est pas un esprit de jugement. Il veut croire au bien, il veut croire qu'il peut encore y avoir un changement. On reste frère. Soyez dans la joie. Voilà, on est à la fin du temps. Et puis vous vous dites, on a entendu des choses ici qui nous ont mis dans la tristesse. Bien sûr, j'ai dû vous dire certaines vérités qui vous ont peut-être heurté. Mais je n'ai pas cherché à me faire aimer. Je vous aime tous, et certains depuis de longues années. Et mon amour pour vous n'a pas varié. Et je n'ai pas voulu vous laver la tête dans ce camp, ni même les pieds avec de l'eau bouillante. Je veux bien vous laver les pieds, mais je ne voudrais pas vous faire mal. Mais si vous avez peut-être eu la pointe de l'épée un peu dans le cœur et dans la conscience, l'épée, c'est pas à moi, c'est la parole de Dieu. Eh bien, croyez-vous, c'est pas pour vous attrister. C'est pas pour vous attrister. Si vous quittez ce temps en disant, bon, je regrette même d'y être venu, puis vous quittez ce temps endurci, oh, que je serai triste. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de partir dans la joie. Soyez dans la joie. La vraie joie. Soyez dans la joie. Il y a cinq exhortations. Regardez ce que c'est. C'est au fond l'épître aux Philippiens. C'est toute l'épître aux Philippiens dans ces cinq exhortations. On a étudié dans une fin de semaine biblique à Châteauguay, là, chez les Sœurs Grises, une fois, cette épître aux Philippiens vient. L'apôtre Paul, alors qu'il était en prison à Rome, ne parlait pas de ses rhumatismes. Il écrivait aux gens de Rome, soyez toujours joyeux. Ne parlez pas de ses peines. Soyez toujours joyeux. Eh bien, au reste, frère, soyez dans la joie. Il y a une joie que le Seigneur donne. Et vous savez, je voudrais que vous repartiez dans la joie. La force et la joie, avons-nous lu hier, sont dans le lieu où il demeure. Et s'il a été dans ce temps, et que vous ayez été attristé, c'était une tristesse selon Dieu, parce qu'elle produisait la repentance. Hein. Mais quand vous rentrerez à la maison, au lieu d'avoir cette tristesse, vous aurez de la joie, parce qu'il vous y attend. Hein. Hors du camp, et nous travaillons surtout pour que vous soyez joyeux hors du camp. Même si vous avez dû pleurer dans le camp, vous serez dans la joie hors du camp. Et ce qui compte, c'est pas le camp pour moi, parce que le camp, c'est qu'un moyen. Mais c'est que, hors du camp, dans l'année, vous connaissiez la vraie joie. Et que, quelles que soient vos épreuves, vous puissiez réaliser que personne ne peut vous ôter votre joie. Pas même Satan, quand il vient vous dire, tout ça, c'était émotionnel. On n'a pas travaillé sur vos émotions. Je n'ai pas cherché à vous émouvoir. Mais la parole de Dieu vous a peut-être ému. C'est autre chose. Vous avez été amené à une certaine tristesse. Vous savez, avant de semer, on laboure. Hein. Et voilà, ça fait apparaître les mottes, puis après on doit passer la herse, ça brise les mottes, on prépare le terrain. Puis après seulement vous pouvez semer. Mais si on jette simplement la semence comme ça, alors oui, c'est merveilleux. Mais ça n'a pas de racine après. On jette la semence, ça tombe sur les endroits. Et il faut toute une préparation. Et le laboureur, souvent, il laboure à la sueur de son visage. Peu importe. Soyez dans la joie. Néhémie 8, la force et la joie. C'est chronique que j'ai cité, hein, ça. Et puis maintenant, il a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Ça, c'est Néhémie 8. La joie de l'Éternel sera votre force. Pourquoi est-ce que Paul veut qu'il soit dans la joie? Parce que quand on est dans la joie, ben, on a aussi plus de force. Un cœur joyeux, un cœur heureux, il a dit que c'est un festin continuel. Puis ça ne nous donne pas de bedaine. Mais vraiment, un cœur heureux, ça nous donne la vraie ligne. Il n'y a pas besoin de trop s'en faire sur le reste. Mais avoir le cœur heureux, être dans la vraie joie. Puis nous voudrions que vous connaissiez la joie qui est dans le Christ. Puis, il leur dit, perfectionnez-vous. Ils croient encore que leur vie peut changer et qu'ils peuvent faire des progrès. Mais comment? Comment est-ce que vous pouvez entrer dans cette voie de la perfection? Dans le chapitre 3 des Philippiens, Paul dit bien, moi je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Mais il nous montre comment on peut courir. Il dit, je ne suis pas arrivé à la perfection, mais je cours afin de la saisir. Parce que pendant longtemps, on a marché à reculons. Bon. On n'a pas avancé, on reculait. Puis après, peut-être qu'on a un peu marché. Mais maintenant, il veut courir. Il sait que le temps est court. Nous n'avons que peu de temps pour vivre le reste de notre vie. Et ce reste de notre vie, ça a de la valeur. Je vous dis, si vous avez perdu 10 années, un jour vécu dans le Seigneur peut valoir une année. Un jour avec le Seigneur vaut mieux que 1000 à l'heure. Et cette promesse de Joël que j'aime à citer, Joël 2:25, je vous redonnerai les années perdues. Alors, Paul nous dit comment on peut se perfectionner. C'est pas en gardant tout le temps en mémoire le souvenir de votre passé et de vos fautes. Hier soir, nous avons vu que cette question des péchés, Jésus était venu pour la liquider. Il a fait la purification de nos anciens péchés. Ne vous laissez pas accabler par le souvenir de vos anciens péchés, quels qu'ils soient. Jésus les a portés, Jésus les a expiés. Alors, Paul vous donne le secret de la perfection. Perfectionnez-vous. Eh bien, il dit, je cours, oubliant les choses qui sont derrière. Chapitre 3 des Philippiens, verset 12. J'oublie les choses qui sont derrière, je me laisse pas arrêter par ces souvenirs, mais je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste. Et le but, c'est qui? C'est le Christ. C'est sa gloire. Voilà, perfectionnez-vous, eh bien, courez dans le chemin. Puis, il les exhorte, un troisième point, à la consolation mutuelle. Si vous avez su ce que c'était que la consolation de Dieu, cette consolation tendre dont parle le prophète Ésaïe, comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolé. Vous savez, Dieu, il sait consoler. Et il console comme une mère qui sait consoler son enfant, comme quelqu'un que sa mère console. Ésaïe 66, je vous consolerai. Eh bien, consolez-vous aussi les uns les autres. Vous voyez quelqu'un dans la peine? Bien, apportez-lui la consolation. Mais pour que vous puissiez lui apporter une vraie consolation, il faut que vous-même, vous ayez d'abord été consolé. Vous retombez dans le chapitre premier de cet épître. Vous avez des épreuves, mais vous avez aussi des consolations. Mais si je vous donne des consolations dans ces épreuves, c'est que ça puisse vous servir. Pour que vous soyez capable vous-même de consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Alors, consolez-vous mutuellement. Aidez-vous, vous êtes dans la tristesse, eh bien, qu'un frère, qu'une sœur puisse venir pour vous apporter une vraie consolation, pas le jugement simplement, comme les amis de Job, qui étaient des consolateurs fâcheux, mais la vraie consolation, parce qu'on sait que nous aussi, ça pouvait nous arriver, et on a besoin d'être consolés. Consolation mutuelle. Philippiens chapitre 2 aussi, verset 1 dit, s'il y a quelque consolation dans le Christ, de rendre ma joie parfaite en ayant un même sentiment. Alors, vous voyez là, après la consolation mutuelle, la quatrième exhortation, avoir le même sentiment, une union de sentiments. Bon, vous êtes ensemble? Dans un couple? Vous voulez être marié? Vous voulez être un couple à la gloire de Dieu? Ayez un même sentiment. Pourquoi qu'il y a tant de désunions dans les couples? C'est parce que tout à coup, on n'a plus les mêmes sentiments. Mais quand on est en Christ, le Christ peut nous donner un même sentiment. Soyez d'un même sentiment. L'union, vraiment, des sentiments. Et quels sont ces sentiments? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est de nouveau Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a voulu glorifier son Père en toutes choses. Et puis, cinquième exhortation, il les exhorte à la paix. À la paix. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Ce que c'est. Vivez en paix. Quelqu'un parmi vous m'a dit qu'elle devait travailler dans un milieu où il y avait des querelles continuelles entre femmes. Je lui ai demandé combien elles étaient ces femmes. 300. Alors je lui ai répondu, ben, ça fait 300 gouttières. Est-ce qu'il est dit qu'une femme querelleuse, qu'elle est une gouttière perpétuelle sur un toit? Alors s'il y a 300 femmes querelleuses, il faut refaire le toit. Parce qu'il y a 300 gouttières. Rendez-vous compte, cette gouttière comme ça, toujours la même chose, ça ne change pas. Ça finit par être agaçant. Ça te tape sur les nerfs. Eh bien, que le Seigneur nous donne vraiment cette paix, avoir la paix, vivre en paix avec vous. Et quand on peut vivre en paix, que les choses peuvent se faire ensemble. Deux valent mieux qu'un, dit l'Écriture. Ils ont un bon salaire de leur travail. Et puis, ils sont deux pour résister. Ils ne se combattent pas. Ils ont un même programme, une même pensée, un même sentiment. Il y a une force. Et ce que l'un ne peut pas faire, l'autre peut l'accomplir. Et alors, comment vivre dans cette paix? Eh bien, vous avez Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse quoi? Toute intelligence. Ça n'a pas à faire avec votre intelligence. Ça va vous dépasser. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais toutes choses sont possibles à Dieu. Le mot impossible n'existe pas pour Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs qui s'agitaient, qui se troublaient. Vos pensées qui étaient dans l'angoisse, elles seront gardées en Jésus-Christ, captivées par Jésus-Christ, amenées à l'obéissance du Christ. Vous vivrez en paix. Et regardez la fin tout à fait de cette lettre. Après ces exhortations, ces cinq exhortations, eh bien, qui finissent par la paix, qu'est-ce que vous trouvez? Maintenant, les salutations, verset 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Un saint baiser. Voilà comment ça finit. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ce serait passionnant de faire une étude biblique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse sur les baisers. Hein? Vous intéresserez? Les baisers dans la Bible. Oui, on a. Mais je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà connu le baiser du pardon? Le baiser que le Père donne à son fils prodigue qui revient, qui l'accueille. Ça s'appelle le baiser de la réconciliation. Quand on peut se réconcilier avec quelqu'un. Le baiser du pardon. Puis, hier, je vous ai parlé du baiser de la soumission. En Orient, quand on est en présence d'un chef, d'un roi, ses sujets lui baisent, quoi, le pied. Ça fait le baiser de la soumission. Eh bien, il ne faut pas seulement recevoir du Seigneur le baiser du pardon. Il faut aussi lui accorder le baiser de la soumission. Maintenant que tu m'as pardonné, je me soumets. Et ma vie t'appartient. Baiser de la soumission, du psaume 2. Il a dit, baiser le Fils avant qu'il ne s'irrite. Accepter sa seigneurie avant la fin de ce temps de grâce. Puis après, vous avez le baiser de la communion, que vous trouvez dans le Cantique des Cantiques. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ton amour est meilleur que le vin, que ce que la terre peut donner comme joie. Le baiser de la communion. Puis il y a le baiser d'adieu, le baiser de la séparation, celui que Orpa a donné à sa belle-mère dans le livre de Ruth, celui qu'on a donné à l'apôtre Paul dans le chapitre 20 des Actes, qui nous a occupés. On sait qu'ils ne vont plus le voir, et il est dit qu'il le couvre de baisers. Mais là, c'est le baiser de paix. Et c'est très drôle, parce que quand on est en Belgique, dans les vieux pays, les croyants, quand ils nous rencontrent, ou qu'on a fait une étude biblique, une conférence, et puis qui nous quittent, ils nous embrassent trois fois, parce que pour eux, c'est la Trinité. Hein. Alors, paf, paf, paf. Bon. Alors, il y en a un qui en avait un peu marre. Puis, il a dit, la parole de Dieu dit, hein. Mais c'est le baiser fraternel. Hein. Mais un. Le baiser de paix. Vous vous souvenez de notre ami Manieri? Hein? C'était la Trinité pour lui. Hein? C'était les trois baisers. Il était de Belgique, alors il donnait trois baisers. Alors, il y en a qui n'aiment pas tellement cela. Alors, on sent... Oui, excusez-moi. Tu bloques ton coude, là. Tu ne t'approches pas, parce que tu as peur des microbes. Bon. Mais quand même, il y a une fraternité. Alors, dans l'Église primitive... Pour se manifester qu'on était en communion, on se donnait le baiser de paix. C'est revenu dans certaines églises. Avant la communion, on se donne le baiser de paix. Mais c'est un saint baiser. Un saint baiser. Je ne dis pas que tu ne peux pas en donner deux, c'est pas ça, mais... Enfin, un saint baiser. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Donc, vous voyez, il leur manifeste l'amour. Et puis, qu'est-ce qu'il dit pour finir? Tous les saints vous saluent. Vous rendez-vous compte? Qu'il est allé voir là-haut. Hein? Comment est-ce qu'il peut dire tous les saints vous saluent? Mais reprenez le chapitre 1er. Il écrit cette lettre à qui? Aux saints qui sont à Corinthe. C'est des saints vivants. Et ce que nous disions hier, c'est que quelqu'un qui accepte le Christ, il devient un homme pour le Seigneur, une femme pour le Seigneur. Il est un saint. Il n'a pas besoin d'attendre la fin de sa vie, sa mort, ou quelques années après sa mort, pour qu'on le canonise. Non. Les saints sont vivants, ils ne sont pas dans des niches, ils sont sur les bancs, ils sont sur les sièges, là. Non. Tous les saints vous saluent. C'est quelque chose de merveilleux. Et vous remarquez, il y a une communion, vraiment. Pourtant, on sait que ce n'est pas des petits saints, ces gens de Corinthe. Mais s'ils ont fait confession quand même, ils peuvent revenir. Tous les saints vous saluent. Ces saints qui doivent être un parfum, qui doivent devenir la lettre du Christ, le parfum du Christ, la lettre du Christ, qui en progressant deviennent l'image du Christ, qui peuvent devenir même ambassadeurs du Christ, qui ont un message oral. Après avoir eu un témoignage silencieux, ils ont un témoignage oral, qui deviennent le temple même de Dieu. Là où il y a un chrétien, il y a l'habitation de Dieu par l'Esprit. On peut trouver Dieu dans le chrétien, qui peuvent devenir des ministres du Christ, qui ont un ministère vraiment à exercer, et qui finalement sont considérés comme des hommes en Christ, ce que nous disions hier. Tous ces caractères pour devenir un homme en Christ, quand le monde veut trouver l'homme, qui ne trouve que le Christ. Vous avez revêtu Christ. On disait l'apôtre Paul ce matin dans le texte que nous avons lu. On traverse le monde dans ce vêtement de lumière. Que nos vêtements soient vraiment les vêtements du Christ. Et si vous voulez savoir ce que sont ces vêtements, ce que sont même les sous-vêtements du chrétien, lisez l'épître aux Colossiens au chapitre 3. Vous y trouverez les sous-vêtements, les entrailles de miséricorde, tout le reste, hein, qui est intérieur. Et puis, vous trouverez même le par-dessus, par-dessus tout. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour qui est le lien de la perfection. Et voilà, alors, cette plénitude de bénédiction finale. Ben, c'est celle de Moïse, en quelque sorte. On a commencé avec la bénédiction de Moïse, en demandant que cette bénédiction nous soit donnée. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière sur toi et qu'il te donne la paix, qu'il se tourne vers toi, qu'il te donne la paix. Puis, la bénédiction que vous trouvez au verset 13 de cet épître aux Corinthiens, c'est une plénitude. C'est la bénédiction du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais vous remarquez que d'habitude, c'est toujours Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, c'est le Fils qui est nommé en premier. Parce que tout pour l'homme pécheur commence par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'accepter. Et qu'est-ce que c'est que la grâce? Ben, c'est le pardon. La grâce, c'est le pardon de nos péchés. Il faut accepter cela. Vous acceptez le pardon de vos péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça commence par là. Nous recevons la grâce qui nous touche, qui nous convertit, qui guérit le cœur, qui nous sauve, qui nous enseigne, qui nous fortifie et qui devient pleinement suffisante, qui nous réintègre dans la faveur de Dieu. Nous sommes maintenant en état de grâce dans laquelle nous sommes maintenant, dans l'aujourd'hui de Dieu. C'est pour ça que Jésus est cité en premier, parce que lui est le canal qui nous apporte le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, il faut commencer par Jésus-Christ. Mais la source première de cette grâce, c'est l'amour de Dieu le Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis ensuite, ben, l'amour de Dieu le Père. La source de la grâce dont le Christ est le canal, c'est le cœur du Père, qui nous a donné un sauveur. Et qui manifeste son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, il l'a laissé mourir sur la croix pour que nous devenions, par sa mort, participants, comme nous l'avons vu hier soir, à sa mort et à sa résurrection. On entre dans le repos de toutes nos œuvres passées par sa mort. C'est fini, hein. On est mort, on se considère comme mort, puis ressuscité. Une vie nouvelle, et comment? Et c'est cette vie du Seigneur. Alors, maintenant, tout cela se consomme dans la communion du Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous unit au Père Céleste, qui nous unit à son Fils, nous unit aussi les uns les autres. Qu'est-ce que c'est les liens qui nous unissent? C'est les liens de la chair, c'est les liens de l'esprit, c'est les liens de l'esprit. Et vous vérifierez la parole qu'il était l'ami plus attaché qu'un frère selon la chair, hein. C'est vrai ça. Les liens de l'esprit, bien que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et cette onction divine se répandant dans nos cœurs c'est cette onction qui va nous animer, qui va nous sanctifier, qui va nous consacrer à Dieu pour le présent et pour l'éternité. Nous sommes ainsi marqués par le nom du Seigneur, du Dieu unique. Et mon dernier mot, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il a espoir pour tous. C'est beau ça. Il n'exclut personne. Pourtant, il a dit des choses. Il a dénoncé des personnes, mais sans les nommer, hein, qui n'étaient pas dans cet état. Mais pourtant, il veut que tous bénéficient de cette grâce, de cet amour et de cette communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bien, mes amis, maintenant, nous avons terminé, mais je voudrais avoir, mais peut-être que vous voudriez vous lever un instant pour changer de position, et puis on peut chanter encore un cantique, te ressembler Jésus. Puis vous vous détendez un peu, et puis on écoute après ce que vous avez trouvé dans vos assiettes. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, aujourd'hui comme toi.
De personnel avant de vouloir dire ceux-là n'y sont pas ou ceux-ci y sont, eh bien, non, vous pouvez faire un examen personnel pour vous-même, bien fait. Alors, plus loin, le groupe, parce que chaque groupe a abordé cela d'une façon un peu différente, mais le fond est unique, c'est merveilleux. Cette diversité et en même temps de voir ce qui nous attend.
Nous, on doit parler, je voudrais simplement ajouter que dans Romains 8, verset 16, on nous dit, si on a la foi, ben, on a aussi l'esprit de Dieu, puis l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes ensemble. Ça, c'est un des points, parce que, autrement, pour pouvoir nous-mêmes le vivre, de savoir, le constater, il faut qu'on ait l'esprit de Dieu en nous pour pouvoir le constater. Et il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, qui était soulevé, je vais bien y revenir. Vous avez pris un bon le soin de l'expliquer dans votre idée, c'est le verset 11. et nous avons réalisé que si on entend, on cherche rien à avoir les cinq exhortations que vous avez énumérées, c'est aussi une preuve de notre foi que de chercher vraiment en Jésus. Que si on en cherche à abonder dans le sens où l'apôtre Paul nous exhorte, et bien c'est aussi une preuve que nous avons la foi et l'esprit de Dieu.
Très bien, merci. Eh bien, pour savoir si nous sommes dans la foi, on peut se poser trois questions. La première, est-ce que nous croyons la parole de Dieu ? Et cette parole de Dieu, il faut reconnaître qu'elle est dans les Écritures, et que l'Écriture est la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, et nous rendre propres à toute bonne œuvre. Parce que, au fond, la foi nous est donnée pour que nous puissions la manifester ensuite par des œuvres. Les œuvres deviendront manifestation de notre foi et de l'authenticité de notre foi, parce qu'une foi qui serait sans œuvre, elle serait morte. Une foi sans œuvre est morte. Mais des œuvres sans foi, ben, c'est aussi des œuvres mortes. De sorte qu'il n'y a pas opposition entre l'enseignement de Paul et l'enseignement de Jacques. On est sauvé par la foi. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi qui sauve ? Eh bien, c'est cette adhésion à ce que Dieu dit, au témoignage de Dieu. Et comme je l'ai exposé hier soir, ce témoignage est double. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu dit de nous. Bien. Ce qu'il dit des hommes, c'est qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Est-ce qu'on admet ça? Que par nature, nous ne sommes pas justes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Puis il dit aussi autre chose au sujet de notre cœur naturel. Il dit que, chapitre 17 de Jérémie, le cœur est trompeur et tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Qui le connaît? Parce qu'on peut avoir une apparence. Mais qui le connaît? Eh bien, il n'y a que Dieu qui dit, moi je connais les cœurs. Donc, je peux croire que Dieu, lui, il me connaît. Puis alors, il sait tout de moi. Et c'est quelque chose qui n'est pas effrayant, vous savez, c'est plutôt quelque chose qui est rassurant. Parce que Dieu nous connaisse à fond, comme personne ne nous connaît, puis qu'il nous parle encore, c'est fantastique. Qu'il ne se soit pas détourné de nous. Bien, celui qui va me parler, c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un que je ne peux pas illusionner. Je ne peux pas avoir de masque devant lui. Toutes choses sont nues et découvertes. C'est avec lui que j'ai affaire, avec quelqu'un qui me connaît et qui me dit, il ne me flatte pas, hein. Il me dit ce qu'il voit, il me dit ce que je suis. Mais une fois qu'il m'a montré ce que je suis, eh bien, il me montre quelqu'un d'autre, son fils. Puis il me dit, voilà ce que tu es, est-ce que tu le reconnais que c'est vrai, ça. Bien maintenant, moi, je te montre mon fils. Et il nous montre les perfections de son fils. Et il nous parle de son fils. Et il nous dit, en lui, je te donne la vie. Si tu le reçois, tu auras la vie éternelle. Dès l'instant où tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. Ce n'est pas une question que vous vous sentiez quelque chose. La foi, ce n'est pas la vue. Ce n'est pas quelque chose qu'on... Oh ben, j'attendrai de sentir quelque chose. Parce que si vous attendez de sentir quelque chose, eh bien, vous ne sentirez rien, à moins que vous soyez très émotif, et puis qu'avec un peu de musique, on vous fasse sentir quelque chose. Hein. C'est-à-dire que vous avez un frisson, vous sentez une chaleur. Alors voilà, vous avez la foi, parce que vous avez senti la chaleur ou le frisson. Ça dépend de votre tempérament. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas cela. La foi, je crois le témoignage que Dieu dit. Et je suis sûr qu'il ne ment pas, parce que je sais ce que ce qu'il dit de moi, moi je sais que c'est vrai. Hein. Et qui ne se trompe pas, parce que lui me connaît, puis je suis un pauvre type, je ne suis pas un pêcheur en peinture, ça je sais. Mais ensuite, quand il me montre le vrai sauveur, je sais aussi qu'il ne me montre pas un sauveur en peinture. C'est réellement le sauveur. Et les perfections de Jésus, bien, nous les voyons dans les évangiles. Alors, la première chose dans ce texte, c'est est-ce que je crois la parole du Seigneur ? Son témoignage sur moi-même, et puis son témoignage sur son Fils. Qu'on ne pouvait pas être racheté par nos œuvres, on ne pouvait pas être racheté par de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, il y aurait que les riches qui seraient rachetés alors. On pourrait faire les 100 coups durs en toute notre vie, puis on donne son argent à l'église à la fin. Non. C'est par la vie donnée de Jésus que l'on est racheté. Et vous avez des certitudes. Donc, la parole crue. Si vous croyez, je vous cite le verset du premier texte. Si vous croyez le témoignage des hommes, si vous croyez ce que les hommes viennent vous dire, le témoignage de Dieu est plus grand. 1 Jean chapitre 5 verset 9. Si vous croyez ce que les hommes vous disent, vous pouvez croire davantage ce que Dieu vous dit. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et voici le témoignage qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est à prendre ou à laisser. Est-ce que vous avez le Fils ou est-ce que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous l'avez reçu ou est-ce que vous ne l'avez pas reçu? Le témoignage de Dieu nous dit que la vie est où? La vie est dans son Fils. La vie est dans son Fils. Donc si je veux avoir la vie, qu'est-ce que je dois avoir? Le Fils. À tous ceux qui l'ont reçu. Ce Fils. Il leur a été donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La vie est dans son Fils. Et il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc un homme qui sait qu'il est sauvé, qu'il a la vraie foi, c'est pas un homme qui est prétentieux. C'est pas un homme qui est prétentieux, au contraire, il a reconnu qu'il était perdu et qu'il avait besoin d'un sauveur. Je me souviendrai toujours, il y a 40 ans, de cette femme très riche de Paris qui me disait dans un sanatorium, le sanatorium de Lézin, vous savez, il faut être bien prétentieux pour être sûr de son salut. Alors j'ai dit, mais madame, vous n'en êtes pas sûre? Je me dis, j'espère être sauvée, mais non, je ne suis pas sûre parce que c'était drôlement orgueilleux de penser qu'on peut être sûr. Alors j'ai dit, madame, vous allez me dire, vous, pourquoi vous espérez être sauvée, puis après moi je vous dirai pourquoi je suis sûr d'être sauvée. Alors elle commence devant son mari. Ben moi, j'espère être sauvée parce que je fais des bonnes œuvres, j'aide mon curé dans ma paroisse, etc. Et puis je suis présidente de ceci, d'un petit comité, de là. Et puis, enfin, elle avait encore d'autres activités. Je suis quand même une bonne mère. Ah, bien sûr, je ne suis pas parfaite. Son mari nous a dit des petits clins d'œil. Mais en vertu, au fond, de ce que j'ai fait, et puis je me confie quand même en la miséricorde de Dieu. On nous a dit qu'il était miséricordieux. Alors, elle pensait que ça allait s'arranger. Bon. Alors, j'ai dit, mais votre assurance, votre espérance, elle repose au fond sur vous-même, sur ce que vous avez fait et sur ce que vous n'avez pas fait. Donc vous êtes encore centré sur vous-même. Mais maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi je suis sûr d'être sauvé. Parce que j'ai dû reconnaître que j'étais perdu. Et que je ne pouvais pas m'en tirer moi-même. N'est-ce pas? Et alors, j'ai accepté le sauveur. J'étais en train de me noyer. Quand on est en train de se noyer, puis qu'on ne sait pas nager, on accepte la corde qu'on nous jette. J'ai saisi cette corde. Alors tout à coup, la lumière s'est faite. Vous savez, elle habitait un très beau quartier à Paris. Après, j'étais chez elle, chez eux. Son mari aussi s'était converti. Et c'était quelque chose de magnifique. Lui, il était athée autrefois. Elle, bonne catholique, mais enfin, c'est pas la religion.